Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchinj. Lui a été créé le 21 avril 1925. Aujourd'hui, il totalise 99 ans d'existence. C'est la zone protégée la plus riche en biodiversité d'Afrique, abritant plus d'un millier d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, ainsi qu'un tiers des gorilles des montagnes. Grand témoin vous fait découvrir le parc national des Virunga, ce site du patrimoine mondial, dans cette interview que Méthode Ouosé, directeur des relations extérieures de ce site, a accordé à Bernardin Nyangui à l'occasion de cet anniversaire. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de nous recevoir chez vous. Chers auditeurs et internautes, à travers cette émission, nous rendons un vibrant hommage à toutes les personnes qui ont travaillé, qui continuent de travailler, ainsi qu'à ceux qui ont perdu ou risqué leur vie pour que le parc national des Virunga continue à subsister jusqu'à totaliser 99 ans cette année. Avant d'aller plus loin, commençons par vous présenter la carte postale du parc des Virunga. Où se trouve-t-il? En quelle année a-t-il été créé? Que représente-t-il en termes de faune, de flore et de biodiversité? La réponse avec vous, Murphy Fika.
Le parc de Virunga doit sa création à deux faits marquants qui l'ont précédé. La préexistence de réserves de chasse de l'État indépendant du Congo, créée par le roi Léopold II dès 1889 pour protéger les éléphants contre les destructions inconsidérées, et l'idée du naturalisme américain Carl Hartley de créer un sanctuaire au Virunga à l'issue de sa mission d'exploration au Kivu en 1921. Créé le 21 avril 1925 sous le nom de Parc Albert, le parc de Virunga est le premier parc d'Afrique du point de vue ancienneté. L'exploration scientifique du parc a débuté en 1933 avec l'émission dirigée par Gaston-François De Witt et par Peter Schumacher. Elle s'est poursuivie avec l'émission d'Hubert Damas en 1935 et 1936, de Louis Van Den Berg en 1936, de Jean Lebrun de Bourlière et Jacques Verschuren de 1957 à 1959. Son nom actuel date de 1969. Il a ensuite été agrandi en 1929, puis en 1950 pour atteindre sa superficie actuelle. Le parc couvre 7900 km² depuis les montagnes des Virunga au sud jusqu'aux montagnes des Ruwenzori au nord. Il comprend une grande partie du lac Édouard et les plaines de la Rwindi. Cette diversité de paysages a permis l'existence de la biodiversité la plus importante de toutes les aires protégées d'Afrique. Plusieurs espèces y trouvent un habitat favorable, des lions, des hippopotames amphibies, ainsi que trois taxons des grands singes, les gorilles des montagnes, les gorilles des groés et les chimpanzés de l'Est. En 1979, il est consacré patrimoine mondial, mais rejoint la liste du patrimoine mondial en péril en 1994. Il est également désigné site Ramsar depuis 1986. Au fil de son histoire mouvementée, le parc national des Virunga a dû faire face à plusieurs conflits armés et il a longtemps été une zone de repli pour des milices armées. Ainsi, en novembre 2020, plus de 200 rangers ont payé de leur vie dans la protection de ce site exceptionnel. S'étend sur 790 000 habitants, le parc de Virunga présente une diversité d'habitants incomparable, allant des marécages et des septes jusqu'aux neiges éternelles du Ruwenzori à plus de 5000 mètres d'altitude en passant par le plein des laves et les savanes sur les pentes des volcans. Quelques 20 000 hippopotames fréquentent ces rivières. Les gorilles des montagnes y trouvent refuge et des oiseaux en provenance de Sibérie viennent y passer hiver. Le parc de Virunga se distingue par sa chaîne de volcans actifs et la richesse de sa diversité d'habitants qui surpasse celle de tout autre parc d'Afrique avec sa gamme de steppes, savanes et plaines de laves, marécages, basse terre et ceinture forestière afro-montagnard jusqu'à sa végétation afro-alpine unique et au champ de glace des monts Ruwenzori dont les pics culminent à plus de 5000 mètres. Le site inclut le massif spectaculaire des Rwenzori et de Virunga qui abritent les deux volcans les plus actifs d'Afrique. La grande diversité des habitants a donné lieu à une biodiversité exceptionnelle, notamment des espèces endémiques et des espèces rares et mondialement menacées comme les gorilles des montagnes. Le parc national de Virunga offre certains des paysages des montagnes le plus spectaculaires d'Afrique. Le mont Rwenzori, au relief tourmenté, avec leurs sommets enneigés, leurs falaises et leurs vallées abruptes, et les volcans du massif de Virunga, couverts d'une végétation afro-alpine, des fougères arborescentes, des lobélies et leurs pentes, couverts de forêts denses, sont les lieux d'une beauté naturelle exceptionnelle. Le volcan, qui manifestent leur activité par des éruptions à intervalles réguliers de quelques années, constituent les formes terrestres dominantes de ce paysage exceptionnel. Le parc présente plusieurs autres panoramas spectaculaires comme les vallées érodées des régions de Sinda et d'Ishango. Le parc abrite aussi d'importantes concentrations de faune sauvage, notamment des éléphants, des buffles et cobs de Toma, et la plus forte concentration d'hippopotames d'Afrique avec 20 000 individus vivant sur les berges du lac Édouard et le long du rivière Rwindi, Rutshuru et Semliki. Le parc national de Virunga est situé au centre du rift albertain, lui-même dépendant de la vallée du Grand Rift. Dans la partie sud du parc, l'activité tectonique due à l'extension de l'écorce terrestre dans cette région a fait émerger le massif de Virunga, composé de 8 volcans, dont 7 sont situés totalement ou partiellement dans le parc. Parmi eux figurent deux volcans les plus actifs d'Afrique, le Nyamuragira et le Nyiragongo, tout proches, responsables à eux seuls de 2/5 des éruptions volcaniques historiques sur le continent africain et qui se caractérisent notamment par l'extrême fluidité de leur lave alcaline.
Merci Murphy Fika, mais ce n'est pas tout. Il y a encore beaucoup d'autres choses à savoir sur le parc national de Virunga, n'est-ce pas Stanislas Diumi?
Les secteurs nord du parc incluent environ 20% du massif de Mont Rwenzori, la plus vaste des régions glaciaires d'Afrique et la seule chaîne de montagnes véritablement alpines du continent. Il jouxte le parc national des Mont Rwenzori en Ouganda, classé en patrimoine mondial, avec qui il partage le pic Marguerite, troisième sommet d'Afrique. En raison de ses variations d'altitude, de pluviométrie et nature de sol, le parc national des Virunga possède une très grande diversité des plantes et d'habitats qui le mettent au premier rang de parcs nationaux africains pour la diversité biologique. On a identifié plus de 2000 plantes supérieures, dont 10% sont endémiques au rift albertain. Les forêts afro-montagnardes représentent environ 15% de la végétation. Le rift albertain abrite aussi plus d'espèces des vertébrés endémiques que toute autre région du continent africain et le parc en possède de nombreux exemples. Le parc abrite aussi 218 espèces de mammifères, 706 espèces d'oiseaux, 109 espèces de reptiles et 78 espèces d'amphibiens. Il sert aussi des refuges à 22 espèces de primates, dont 3 espèces de grands singes, le gorille de montagne, le gorille de plaine de l'Est et les chimpanzés de l'Est, et à 1/3 de la population mondiale de gorilles de montagne. Les zones des savanes du parc abritent une population diverse d'ongulés et la densité des biomasses de mammifères sauvages est l'une des plus hautes de la planète. Parmi les ongulés, on trouve certains animaux rares comme l'okapi endémique à la République démocratique du Congo et les céphalopes rouges endémiques au mont Rwenzori. Le parc comporte aussi d'importantes zones humides essentielles pour l'hivernage de la vifaune paléarctique. Le parc est caractérisé par une mosaïque d'habitats extraordinaires qui s'étend sur 990 000 habitants. Le bien est clairement délimité par l'ordonnance de 1954. Les richesses y sont bien protégées malgré les défis économiques et démographiques dans sa périphérie. Le parc renferme deux couloirs écologiques hautement importants car il relie respectivement les différents secteurs. Le couloir de Mwaro relie les secteurs de Mikeno au secteur Nyamulagira. La côte ouest relie les secteurs nord au secteur centre du massif de Virunga. La présence du Queen Elizabeth National Park, aire protégée contiguë en Ouganda, constitue également un couloir écologique terrestre reliant les secteurs centre et nord. Enfin, le lac Édouard constitue un couloir aquatique important. Le bien est au bénéfice d'un statut de parc national depuis 1925. son autorité de gestion est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, organisme qui a perdu de nombreux agents morts en service. Le parc se heurte à des problèmes de gestion. Pour assurer la pérennité du bien, le parc doit être géré sur de bases scientifiques et disposer d'un plan de gestion qui faciliterait, entre autres, une meilleure délimitation des différentes zones. Une surveillance renforcée assurerait l'intégrité des limites du parc. Elle réduirait le braconnage, la déforestation et la pression sur les ressources piscicoles, activité notamment de groupes armés isolés. À cet effet, le renforcement des effectifs et de l'équipement disponible, ainsi que la formation du personnel du parc sont primordiaux. L'amélioration et le renforcement des infrastructures administratives et des surveillances contribueraient à réduire la pression sur les espèces rares et menacées, comme les gorilles de montagne, les éléphants, les hippopotames et les chimpanzés. Vu la croissance démographique humaine importante, l'établissement de zones tampons dans tous les secteurs s'avère indispensable et urgent. Une autre priorité est celle d'établir un fonds fiduciaire qui permettrait de garantir des ressources suffisantes pour la protection et la gestion de la propriété à long terme. La promotion d'un tourisme localisé et contrôlé pourrait accroître les recettes et contribuer à un financement régulier pour le maintien du bien.
Merci également à vous, Stanislas Diumi. Le parc national des Virunga, vous le savez, qui a totalisé ce mois d'avril 2024 99 années d'existence, reste confronté à de nombreuses menaces. Ce site du patrimoine mondial qui a fait jusqu'aux années 90 la fierté de la RDC, à l'époque dénommée Zaïre, subit des pressions de toutes parts, déplore plusieurs acteurs. Quelles sont les principales menaces qui affectent ce site du patrimoine mondial? Réponse dans ce reportage de Bernard Nyangi.
Aujourd'hui, près de 90% des secteurs sud et centre du parc national de Virunga se situent dans la zone occupée par les rebelles du M23. Avant cela, le parc servait déjà de cachette pour plusieurs milices armées y pratiquant le braconnage et le trafic des diverses espèces protégées de la faune et de la flore congolaise. Cela avait conduit au classement vers 1990 de ce vieux parc congolais au patrimoine mondial en péril. Le rapporteur général de la société civile du territoire de Rutshuru déplore que ces menaces persistent jusqu'aujourd'hui, Samson Olukira.
Les menaces sont l'expoliation des terres, la carbonisation, le braconnage, la surmilitarisation dans les parcs. Les belligérants font les parcs nationaux de Virunga comme leur champ de bataille. Tout ça, ça expose la biodiversité.
Le lac Édouard, qui fait aussi partie intégrante du parc national de Virunga, subit les mêmes menaces. Le secrétaire exécutif du comité des pêcheurs du dit lac déplore que la campagne de vente des blocs pétroliers vienne accroître cette pression. Josué Mukura.
Le lac Édouard bien géré peut régénérer 80 millions de dollars, soit 16 000 tonnes de poissons par an. Mais aujourd'hui, le lac est menacé par les porteurs d'armes confondus. Donc aujourd'hui, la production a fortement diminué. Ce qui est encore très paradoxe, les gouvernements de Kinshasa, ils sont dans le processus de mettre le bloc 5 à l'intérieur du parc national de Virunga, et ce qui est notre vraiment inquiétude.
Créé en 1925, pendant que le Nord Kivu avait à peine une centaine de milliers d'habitants, aujourd'hui la population riveraine du parc national de Virunga avoisine les 5 millions d'habitants, cela depuis la ville de Goma au sud jusqu'à Beni, plus au nord. Conséquence, la pression foncière devient une nouvelle menace, ajoute Maître Olivier Ndolé, responsable de l'ONG ACDH.
Le parc national de Virunga fait face à un envahissement terrible. Actuellement, il y a des villages. Si vous allez vers Kiloliro, la partie vers Buiza, vous allez vers Ndulo, Congo Yassika, vers Beni, ce sont des envahissements aux yeux et aussi de tout le monde. Et je pense que cela constitue un danger par rapport à l'existence physique même du parc national de Virunga.
Maître Ndolé estime que les 90 années d'existence du parc devrait constituer une matière à réflexion pour tous les acteurs ayant concouru à sa création. Rappelons que depuis sa prise de fonction comme chef du site du parc national de Virunga en 2008, le directeur belge Emmanuel de Merode a initié de nombreux efforts d'atténuation qui portent déjà leurs fruits. Au moins l'ensemble de la valeur biologique du parc a été restauré. Cependant, la lutte reste encore d'actualité. En effet, la guerre du M23 entraîne de nouveaux dégâts dont la réparation demandera du temps et de gros moyens. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Pour lier l'utile à l'agréable et souhaiter un très joyeux anniversaire au Parc national des Virunga et faire un clin d'œil à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et à tous les éco-gardes, nous vous proposons la chanson Zamba Zamba de l'orchestre Bella Bella. Cette chanson de Soki Vangu parle de la protection de l'environnement au moment où presque personne n'est si intéressé. Il faut dire que le gars avait vu loin et que c'était un avant-gardiste. Zamba Zamba.
Yeah.
Radio Capi, grand témoin.
Je vous invite à présent à suivre l'interview que Méthode Ouosé, directeur des relations extérieures du Parc national des Virunga, a accordée à Bernard Nyangi à Goma dans le cadre des 99 ans d'existence de ce site. Suivez.
Monsieur Méthode Ouosé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le Parc national des Virunga vient de totaliser 99 ans d'existence, bientôt sera 100 ans. Pour commencer d'abord, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire aujourd'hui par rapport à sa conservation?
Pendant ces 99 ans, il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées. Il y a eu le haut et le bas. Donc, il y a eu une période où tout se passait très bien en matière de conservation. Mais aussi, il y a des périodes où il y a eu beaucoup de défis, beaucoup plus liés à l'insécurité et à tous les autres aspects qui ont frappé la province du Nord Kivu. Mais sur le plan de conservation en général, on peut se féliciter du fait que aucune espèce du parc n'a disparu pendant les 99 ans. C'est vrai qu'il y a certaines espèces dont le nombre a diminué, mais en termes d'espèces reconnues au parc national de Virunga depuis sa création, il n'y a aucune qui a disparu.
Donc on peut dire, sur le plan général, le parc a su quand même conserver l'essentiel de sa richesse ou de sa valeur biologique.
Oui, effectivement. Donc la valeur biologique a été conservée. Mais cependant, il y a juste des défis beaucoup plus liés à l'intégrité. Il y a certaines zones qui ont été légalement occupées, qu'on estime aujourd'hui à 13% de la superficie du parc envahie.
Mais envahie comment?
Ces zones ont été envahies parfois par l'agriculture, parfois par les habitations. Mais vous comprendrez que tous ces envahissements ont un lien direct avec la situation sécuritaire. C'est beaucoup plus les zones occupées par les seigneurs de guerre qui ont, avec le temps, subi des déforestations et après, il y a l'agriculture qui s'y pratique. Mais nous sommes en train de travailler pour que d'ici 2025, à 100 ans d'existence du parc, on arrive à réduire tant soit peu ces envahissements. Car on a constaté que tous ces envahissements et toutes les menaces que subit le parc sont dues au contexte de la région. C'est d'abord, en premier lieu, le parc est situé à l'est de la RDC, une zone densément peuplée, où on sent une forte démographie, mais aussi c'est toutes les ouvertures possibles, donc les frontières avec les pays voisins, qui attirent beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes impliquées dans les commerce illégal des ressources du parc.
Donc, on peut dire que l'espace qu'occupe le parc national de Virunga, c'est un espace qui est aussi densément peuplé et cela accroît une pression sur les ressources du parc et ses écosystèmes.
Effectivement. Donc, c'est l'un des causes de ces envahissements. Mais aussi, il y a un deuxième aspect, c'est la pauvreté. Donc, vous constaterez que les communautés qui vivent autour du parc sont en majorité pauvres. Ça fait que pour survivre, ils sont obligés d'exploiter illégalement les ressources du parc en fait de subvenir aux besoins de leur famille. Mais en plus de ça, il y a aussi tout l'aspect de l'insécurité, comme je l'ai dit. Donc c'est tout le développement de l'économie illégale autour des ressources du parc.
Ça veut dire
qu'il y a tous ces groupes armés qui se sont installés dans les parcs et qui exploitent les ressources. Et sur base de cela, ils ont créé une économie illégale qui échappe à l'État congolais, dont on a beaucoup de complices dans différentes villes. Ça fait que beaucoup d'efforts que le parc est en train d'entreprendre est en train d'être impacté par cette complicité, s'il faut le dire, entre tous ces circuits illégaux qui se pratiquent autour des ressources du parc.
Et cela prend en compte l'implantation des champs dans le parc, l'exploitation de charbon, de bois, de planches et consorts, et même du lac.
Oui, oui. Donc ça tourne autour de la pêche illicite, du braconnage, des occupations des espaces du parc, mais aussi les charbons de bois. Vous comprendrez avec moi qu'il y a une étude qui a été réalisée et qui a prouvé que uniquement pour les charbons de bois qui est exploité illégalement dans les parcs, le coût de cette économie est évalué à près de $1 million le mois. Donc c'est autant des sacs de makala qui sont en train d'être utilisés dans toutes les villes autour du parc, qui proviennent du parc. C'est un grand défi. Et tout ça a amené le parc à mettre en place des mesures d'atténuation de toutes ces pressions.
Ce qu'on voulait savoir, puisque on voit quand même pendant ces années aussi, il y a un développement d'un certain nombre de projets autour du parc. Et cela, ça peut avoir quel impact?
Effectivement, comme je l'ai dit au début, nous avons constaté qu'il y a les problèmes de la pauvreté. Et pour atténuer toutes les pressions sur le parc, il faut travailler sur les problèmes de l'économie des ménages des populations autour du parc. C'est là qu'est venue l'idée du programme Alliance Virunga, que le parc a mis en place, un programme de développement pour la paix et la stabilisation. C'est-à-dire, on a pensé que si on arrive à créer de l'emploi autour du parc, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes impliquées dans le commerce illégal des ressources vont s'orienter vers le métier qui sera créé. Et une fois qu'ils ont du travail, ils vont diminuer leur impact sur les ressources du parc. Ce grand programme d'Alliance Virunga se base sur 4 grands piliers. Et l'objectif derrière est de créer l'emploi. Tout en sachant qu'en créant l'emploi, il y a l'économie des familles qui va être relevée, il y a l'économie de la province qui va être relevée, et les communautés vont comprendre l'intérêt de la protection du parc, parce qu'ils auront eu du travail à cause de l'existence du parc dans leur milieu. Donc les 4 grands piliers concernés par ce programme, c'est notamment le pilier du tourisme, qui est un grand pilier de développement. Si on voit tous les pays voisins qui ont bien exploité leur potentiel touristique, au sein du développement derrière le tourisme. Malheureusement, chez nous, ce pilier n'a pas encore pris de l'ampleur à cause de la situation sécuritaire. Parce que pour faire le tourisme, il faut s'assurer qu'il y a la sécurité qui vient derrière.
Et donc, actuellement, on peut dire que le tourisme est d'abord en veilleuse.
Oui, le tourisme est en veilleuse depuis quelques années. Je crois bientôt 6 ans que le tourisme est en veilleuse. Ça fait que ce pilier ne marche pas normalement. Mais il y a aussi le deuxième pilier qui est le pilier de l'agriculture et la transformation. Parce qu'on a constaté effectivement qu'il y a les problèmes des terres. Il y a peu de terres qui sont exploitées par les communautés, mais aussi il n'y a pas de transformation au niveau local. Ce qui fait que le pauvre cultivateur n'arrive pas à bénéficier totalement du circuit lié à cet aspect d'agriculture. Nous avons pensé qu'il faut investir dans l'agriculture et mettre en place des unités de transformation au niveau local pour élever un peu les coûts de vie des agriculteurs. Ce grand programme intervient au Petit Nord, donc autour de Goma, mais aussi dans le Grand Nord Kivu. On est dans les filières du café, du cacao, du blé, du maïs et des maraîchères pour voir comment transformer localement les produits qui sont cultivés autour du parc. Il y a le troisième pilier, c'est le pilier énergie, parce qu'on s'est rendu compte que pour qu'il y ait développement, il faut avoir du courant. On a investi aussi dans l'énergie. Aujourd'hui, on est en train de construire notre 4e barrage hydroélectrique. Aujourd'hui, 70% de la province du Nord Kivu est alimentée en électricité par les entités du parc de Virunga. Et derrière tout ça, c'est arriver à booster le développement à travers l'énergie.
Faisons attention de la manière dont nous cherchons à nous enrichir.
Faisons très attention car l'argent n'amène pas toujours le bonheur.
Prenons garde de la manière dont nous traitons notre environnement.
Dans le souci de satisfaire nos besoins égoïstes
et mercantilistes, trouverions-nous un espace commun ou un entourage
où il fait beau vivre.
Attention, protégeons notre environnement contre progéniture.
N'ont pas détruit l'environnement. Et pourquoi notre stupidité nous pousse-t-elle à le faire aujourd'hui?
Vraiment.
Évitons de détruire notre flore et notre faune, car notre vie et celle de nos progénitures en dépendent. Il ne nous reste que 10% de l'atmosphère. Conservons la nature,
c'est maintenant ou jamais.
Écoute ce qu'a dit un écologiste averti. Lorsque l'homme aura abattu le dernier arbre, tué le dernier animal, attrapé le dernier poisson, il réalisera que l'argent n'est pas comestible. Ah bon?
Cherchons à maintenir nos milieux naturels en équilibre afin d'empêcher la disparition des espèces animales et végétales.
Protégeons notre environnement,
protégeons-les
contre progéniture. Attention, protégeons notre environnement contre progéniture. Attention, protégeons notre environnement,
protégeons-les.
UNICEF, ministère des gens avec famille, ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ministère de l'environnement, vous qui avez un œil regardant sur l'avenir de ces enfants, vous avez entendu ce cri, non? Un cri de détresse. C'est un cri de détresse. SOS, lancez pas les enfants. Faites quelque chose, pardon. Sinon, tapis pour nous tous. J'ai dit et je vous remercie. Mise en place. Continue.
Créé le 21 avril 1925, aujourd'hui il totalise 99 ans d'existence. C'est la zone protégée la plus riche en biodiversité d'Afrique, abritant plus d'un millier d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, ainsi qu'un tiers des gorilles des montagnes. Grand Témoin vous fait découvrir le parc national des Virunga, ce site du patrimoine mondial, dans cette interview que Méthode Ouosé, directeur des relations extérieures de ce site, a accordé à Bernard Nyangui à l'occasion de cet anniversaire.
Quelle est en fait la perspective par rapport surtout à ce pilier énergie? Vous êtes à combien aujourd'hui comme production? Et vous envisagez aller jusqu'à combien? Et
aujourd'hui, on est à près d'une trentaine de mégawatts. Mais l'objectif, c'est d'arriver à produire 100 mégawatts. Parce qu'on s'est dit, avec 100 mégawatts, on va créer plus de 50 000 emplois. Et si on a plus de 50 000 familles qui ont eu de l'emploi à cause de l'existence du parc, on on aura créé des alliés qui vont nous aider à protéger le parc. Donc, à travers l'énergie, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME qui ont été installées par-ci, par-là, grâce à l'énergie. Et tous ces PME sont en train de recruter les jeunes au niveau local. Ça réduit les problèmes du chômage, mais aussi ce qui est positif, il y a des jeunes anciens membres des groupes armés qui sont en train d'être embauchés dans les entreprises créées à cause de la production du courant de Virunga. Nous sommes en train de penser que c'est là même un autre point positif de la réduction de l'insécurité. Parce qu'au moment où les jeunes anciennement occupés dans les groupes armés trouvent du travail, ça fragilise les seigneurs de guerre qui ont maintenu la province et même le parc pendant plusieurs années dans une situation inconfortable. Mais aussi, ça va permettre à ce que le tourisme reprenne. Parce que si ces groupes armés n'ont plus de clients pour aller œuvrer pour leur compte, ils vont quitter le parc. Le tourisme va reprendre et ce pilier-là va être relancé.
Peut-être avant de continuer, pour le pilier effectivement du tourisme, même si c'est en veilleuse actuellement, mais c'est quels sont les services touristiques qu'on peut avoir dans le parc et combien peuvent être fonctionnels aujourd'hui?
Nous avons toute une gamme de produits touristiques. C'est notamment la visite aux gorilles, il y a la plaine du Chacha, il y a tous les déversoirs de la Semliki, il y a la neige au niveau des Ruwenzori. Mais tous ces produits actuellement sont fermés. Le seul produit qui est ouvert, c'est l'île Tchegera, qui est une île située dans le lac Kivu et qui est un milieu touristique de divertissement et aujourd'hui beaucoup plus exploité par des Congolais. On sent tous les week-ends des jeunes, des familles qui quittent Goma pour aller se divertir à l'île Tchegera, une façon de prendre un peu du repos et du relax autour d'un paysage du parc. Mais les autres circuits sont fermés, c'est notamment tous les lodges de Mikeno, de Rumangabo, parce que c'est une zone occupée par les groupes armés, mais aussi toute la zone de Mikeno, il n'y a pas accès à cause de la situation de la guerre.
Il y a un moment où le parc national de Virunga a été même proclamé comme une destination touristique de premier choix. Peut-être en RDC ou en Afrique. Est-ce qu'il peut encore restaurer ce même statut au cas où les choses allaient?
Oui, au fait, la seule chose qui bloque, c'est la sécurité. Une fois la sécurité rétablie, nous allons reprendre notre valeur touristique qui est reconnue sur le plan mondial. En fait, ce qui a impacté beaucoup plus le tourisme, c'était d'abord les problèmes d'Ebola. Parce que quand il y a eu déclaration de l'Ebola à l'est de la RDC, à Beni et à Goma, il y a eu réduction sensible des touristes. Mais malheureusement, après Ebola, il y a eu le Covid qui est arrivé, qui a aussi impacté le tourisme. Et malheureusement, quand le Covid s'est terminé, au niveau du parc, pendant les deux périodes, Covid et Ebola, nous sommes concentrés sur la réfection des infrastructures touristiques. Donc tout était OK. Mais quand on voulait relancer, il y a la guerre du M23 qui a surgi et qui a bloqué ce relancement du tourisme. Mais on pense que si la guerre se termine, les infrastructures sont déjà bien préparées, il y aura relance rapide du tourisme.
Et avant que le tourisme ferme, on peut avoir une idée sur combien, par exemple, par rapport aux visites, on pouvait avoir atteint déjà le pic?
Et je crois que le pic a été enregistré aux années 2016-2017, où on est allé jusqu'à plus de 10 000 touristes par an, ce qui représente un investissement vraiment costaud, surtout qu'il y a toujours cet aspect communautaire derrière l'activité touristique, c'est le 30% des revenus du tourisme qui doivent bénéficier aux communautés locales. Donc c'est un manque à gagner et pour les communautés locales par rapport à leur part dans ce circuit et pour l'État congolais par rapport à tout ce qui est achat permis touristique, visa et tous les restes de dépenses liées au circuit touristique.
Oui, quelque part vous avez récemment aussi parlé de la résilience des gestionnaires mais aussi des éco-gardes. Ça peut s'exprimer en quoi exactement cette résilience-là pendant ces temps ici de crise?
La résilience dont nous avons fait allusion, elle s'explique du fait que malgré la guerre, nous n'avons pas abandonné toutes nos positions. Parce que la loi nous reconnaît un statut de non-belligérance en cas de conflit. C'est comme ça que même si on a évacué certains sites, mais il y a d'autres sites où on garde encore la présence pour préserver les acquis. Donc c'est de cette façon que nous sommes en train de fonctionner dans la résilience, surtout dans les zones frappées par la guerre, pour ne pas exposer ou abandonner tous les acquis de plusieurs années au profit des belligérants.
Mais ça, vous le faites contre tout ce qui est comme conséquence liée aux risques et menaces sur la sécurité même de vos stats.
Bon, on prend des précautions pour ne pas exposer les staffs, mais on essaie quand même de maintenir. Il y a même des travaux en cours, des constructions de barrages hydro dans la zone occupée par les rebelles. On essaie de poursuivre les travaux, en fait que les jours où la guerre va prendre fin, on atteigne l'objectif que nous nous sommes assignés. Ce sont de grands travaux qui bénéficieront à toute la province. On ne sait pas les abandonner brusquement. Pourtant, la loi nous reconnaît ces statuts de non-belligérance. On essaie un peu de maintenir ce qu'on peut maintenir dans la mesure du possible pour ne pas exposer tous les acquis, toute la conservation au profit de la guerre.
Alors, M. Méthodose, peut-être pour terminer.
Oui, il y avait un quatrième pilier qui était l'entrepreneuriat. Donc, on est en train d'encourager la mise en place des entreprises. Donc, il y a des zones industrielles que nous avons installées par-ci, par-là, à Goma, à Moussienene, à Beni, où nous mettons à la disposition des entrepreneurs des espaces prêts à recevoir des entreprises, en fait, d'appuyer cette transformation dont nous pensons est très utile pour relever l'économie de notre province. Et pour ça, il y a quelque chose de nouveau que nous avons pu ajouter à ces produits d'entrepreneuriat, c'est le crédit électricité. Ça signifie tous les entrepreneurs qui utilisent les courants Virunga, ils ont la possibilité de contracter des crédits via Virunga, mais le remboursement de ces crédits passe à travers l'achat de l'électricité. Donc vous achetez l'électricité, on soutire un petit pourcentage et ça vous permet de mettre en place votre entreprise, d'acheter le courant, de travailler tout en payant petit à petit la dette et après un temps, on se rend compte qu'on a fini la dette sans sentir vraiment la lourdeur de ces paiements. C'est ça un peu le nouveau que nous avons essayé de créer dans le cadre de l'Alliance Virunga.
Alors aujourd'hui, le parc national de Virunga, bon, c'est d'abord le premier parc africain, le premier parc créé en RDC, un patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi un patrimoine national pour le peuple congolais. Qu'est-ce que vous pouvez attendre comme gestionnaire du site de Virunga, de la population en fait, des communautés locales, même aussi de la population congolaise?
Et ce que nous attendons ou ce que nous recommandons à la population, c'est d'appuyer les efforts que nous sommes en train de faire. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est une nouvelle stratégie de la conservation pour les bénéfices de la population. Ce n'est plus comme l'ancien état où la conservation était vraiment policière. Aujourd'hui, on est en train de migrer vers la conservation communautaire où on fait participer la communauté à la gestion du parc. Mais pour que la communauté se sente vraiment à l'aise, il faut qu'elle retrouve sa part. Et retrouver sa part, c'est tous ces circuits que nous sommes en train de créer autour du parc pour permettre à la communauté de sentir réellement la valeur de la présence du parc dans leurs différentes entités. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir. Ça fait 100 ans où on a eu à améliorer ce qu'on a pensé qui n'était pas bien au départ. Mais les 100 ans à venir, nous pensons qu'ils seront très meilleurs si nous tous, et les autorités compétentes, et les communautés locales, et les autorités du parc, si on se met ensemble pour la même vision, on pense que ça sera les 100 ans à venir plus meilleurs que les 100 ans passés.
Monsieur Méthode Wose, je rappelle que vous êtes le directeur des relations extérieures du site de Virunga. Merci beaucoup.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Bernard Nyangi, réalisation et coordination Alain Irung Mouchinge, supervision Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez réécouter cette émission, voire télécharger plusieurs autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.